scène, Sana Blanger.
Et bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous allez bien malgré les fortes chaleurs en ce moment. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors, chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a marqué ou m'a inspiré dans la journée. Ce soir, j'ai choisi le mot « avarice ». Alors que l'inflation est de nouveau d'actualité, il est facile de faire la confusion entre une personne qui cherche les économies à tout prix et une autre que l'on peut taxer d'avarice. Alors la différence est souvent que les plus économes sont les plus généreux et partagent ce qu'ils ont. En revanche, ceux qui témoignent d'avarice restent avides d'amasser les biens et le font jusqu'à la cupidité. Si la confusion est de plus en plus perceptible, c'est certainement parce que la peur du lendemain pousse l'économe à la limite de l'avarice. Et qu'en est-il pour vous? Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez été victime de l'avarice d'un proche ou, au contraire, vous avez été surpris de la générosité d'un proche dont vous connaissez les très faibles moyens? Faites-nous part de votre vécu. Appelez-nous également au 3921 pour partager vos expériences, vos avis, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qui est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Alors comme je disais juste avant, Adrien et Bastien, fidèles au poste, vous répondront au standard du 3921 et c'est Laurent Pellet qui réalise l'émission ce soir. A tout de suite.
La libre antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Donc il y a de la place au 3921, vous pouvez nous contacter et passer comme Paul. Ça y est, enfin.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Paul. Nous avions eu quelques soucis techniques pour bien vous entendre. Alors, est-ce que ce soir, ça marche mieux?
Après Adrien, ça marche pas mal, ouais.
Oui. Oh oui, c'est bien mieux qu'hier. Bon, Paul, on recommence?
On recommence.
Eh oui. Donc, vous nous avez appelé avant-hier, et je répète cette phrase parce qu'elle est vraiment très importante, et elle résume le contexte dans lequel vous êtes, à savoir, malgré le temps, je n'arrive pas à oublier.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé, Paul?
Je voulais aborder un autre thème ce soir, mais bon.
Ah oui, très bien. Non, très bien. Abordez ce que vous voulez.
Vous avez parlé de l'avarice, mais bon, c'est encore un autre thème, mais bon, j'ai pas rédigé de texte encore sur l'avarice.
Alors, en fait, pour tout vous dire, hier, j'avais évoqué le mot abandon, et j'avais pensé à vous, Paul, sur le fait du lâcher-prise. Vous savez, le fait que vous nous disiez « je n'arrive pas à oublier les traumatismes que j'ai vécu », voilà, vous m'avez inspiré, en fait.
D'accord.
Ah oui. Vous voyez, je vous fais cet aveu. Donc, de quoi avez-vous envie de parler ce soir?
En fait, un sujet qui est quand même relativement important, parce que ça concerne la démocratie en France. Plus particulièrement, la liberté d'expression.
D'accord.
Moi, je voulais vous poser une question, Sana, pour donner un petit peu votre avis, si je peux me permettre.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'en France, la liberté d'expression pour tout citoyen français?
Alors, j'ai pas très bien entendu la...
Est-ce que la liberté d'expression en France est accessible à n'importe quel citoyen sain de corps et d'esprit, on va dire?
Normalement, oui. D'ailleurs, c'est le fondement même de la France, liberté, égalité, fraternité. Donc, effectivement, normalement, nous sommes en capacité en France à la fois de pouvoir nous exprimer librement et de pouvoir également écouter les autres, exprimer leur, leur pensée, leur avis, leur...
Je sais qu'à la libre antenne, il n'y a pas de souci avec la liberté d'expression pour tout un chacun. Mais par contre, moi, je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée le 5 novembre 2010.
Oui.
Je me suis retrouvé pour la deuxième fois sur un plateau de télévision que je ne citerai pas. Hein, mm-hmm. Et j'ai été censuré en direct.
Ah, en direct ?
Censuré en direct. Je devais être interviewé et je n'ai pas été interviewé, contrairement aux trois autres personnes qui venaient aussi pour témoigner de leur histoire.
Ah, qu'est-ce qu'on vous a donné comme, comme argument ?
Non, en fait, on ne m'a pas donné d'argument. Aucun. Bon, je vais essayer de ne pas de, de dire de nom parce que ça risque de m'échapper. Bon, moi j'avais été sur ce même plateau déjà 18 mois auparavant, c'est-à-dire le 30 mai 2009.
Oui.
Bon, là c'était sur un thème. Le thème de l'émission, c'était « Mon erreur de jeunesse me colle à la peau
mmh. ».
Et donc, en fait, moi, je suis allé venu témoigner parce que j'ai été impliqué dans un drame directement.
D'accord.
Qui s'est passé en mai 78. Bon, voilà. Là, bon, il n'y a pas eu de problème. Bon, enfin, on m'a quand même donné quelques consignes. Hein. Ça n'allait pas que je dise certaines choses. Et enfin, bon, j'ai pu passer mon message quand même. Et donc, voilà. Donc, j'ai... Et l'émission a été diffusée 4 jours après, le 4 juin 2009.
Oui.
8 mois plus tard, bon, j'ai contacté souvent cette, cette émission-là, parce que j'ai vécu tellement d'épreuves que j'étais concerné par plein de thèmes.
Oui.
C'est pour ça, moi, j'ai rédigé 80 thèmes.
Ah oui, en effet.
Alors, ce sont des thèmes relatifs à mes expériences personnelles.
Oui.
L'histoire, avec un grand H, mmh. Notamment, enfin, principalement l'histoire de France au XXe siècle, beaucoup de textes de sociologie,
oui.
Et aussi des textes de criminologie.
Ah, d'accord.
Et en fait, donc, parce qu'on ne fait pas les choses par hasard, moi je suis fils de criminel, hein, j'ai approfondi la question. Et sur le plan psychologique aussi, parce que j'ai acheté des revues, des magazines de psychologie générale, comportementale, mm-hmm. Mais aussi sur la psychocriminologie.
Oui.
Et donc, 18 mois plus tard, donc c'était le 5 novembre 2010, je me retrouve à Paris, sur le même plateau.
Oui.
Sauf qu'ils avaient déménagé entre-temps, mais bon, c'est pareil. Et donc, ils m'ont fait venir à Paris.
Toujours, toujours la même personne.
Oui, toujours la même émission.
D'accord, mais avec toujours la même personne, toujours la même personne qui animait, Paul.
Non, non.
Non, ça avait changé. Personne. D'accord.
L'animateur n'était plus le même.
D'accord.
Intervieweur. Et donc ils m'ont fait venir à Paris, ils m'ont payé l'hôtel et ils m'ont payé le train pour rien. Et alors ce qui s'est passé, parce que dans ces émissions-là, il y a toujours top témoins. Donc, qui viennent de différentes régions, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui racontent chacun leur, leur histoire, hein, selon le thème de l'émission du jour.
Oui.
Et donc là, le thème, c'était sur les empoisonnements volontaires.
D'accord.
Et vous savez, quand on ne vous invite pas comme ça sur un plateau.
Mmh.
C'est-à-dire que moi, j'ai été interviewé plusieurs fois par une journaliste de l'émission. Hein, puis après, ils font une sélection. Bon, déjà, ils
absolument.
Regardent si vous êtes cohérent, si c'est logique ce que vous dites. Et bien sûr, hein, ils ne peuvent pas inviter... n'importe qui. Et donc voilà, je me suis retrouvé sur ce plateau de télévision qui est en forme d'amphithéâtre. Hein. Et en fait, moi, j'ai pas... Donc il y avait 4 témoins. Donc il y avait 3 femmes qu'on avait tenté d'empoisonner. Dont une, en fait, qui était restée handicapée. Et moi, j'étais en face. Ils m'ont pas mis à côté. Généralement, les 4 témoins sont les uns à côté de l'autre sur des grands fauteuils. Et moi... Ce qui m'a surpris, c'est quand je suis rentré dans la salle, sur le plateau, j'ai été placé en face, de l'autre côté, des 3 femmes témoins.
Mm-hmm.
J'étais assis à côté d'un avocat qui participe parfois à l'émission.
D'accord.
Et il se trouve que au bout d'une demi-heure, j'avais toujours pas été interrogé, toujours pas de questions.
Oui.
Donc les trois autres femmes témoins étaient interviewées, interrogées, auditionnées à tour de rôle.
Et on ne vous a rien dit avant l'émission, on ne vous a pas dit
Non.
D'accord.
Non, parce qu'ils m'ont fait rentrer dans la salle. Et bon, j'ai compris après pourquoi.
Oui.
Parce qu'au bout d'une heure, parce que l'émission dure à peu près une heure, un peu plus, et j'avais toujours pas été interviewé. Et donc l'animateur est venu me voir à la fin de l'émission, c'est terminé, il m'a posé une question qui n'avait rien à voir avec le thème. Et hop, c'est éclipsé.
Et c'était une émission directe, hein?
Non, c'est pas en direct.
Non, c'était enregistré. D'accord. Donc là, c'était l'enregistrement, en fait.
Voilà.
D'accord.
Et c'est un peu le même principe que... Enfin, bon, il y a une autre émission qui remplace maintenant, qui est un peu équivalente. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, bah, en fait, je pense que, disons, là, comment dire, je pense que c'est leur service juridique qui a demandé de ne pas m'interviewer. Et je pense qu'ils ont peur du scandale.
D'accord.
Et parce qu'en fait, en 1971, mon frère aîné et moi avons commis une tentative de parricide qui a échoué totalement. Et donc, j'ai expliqué au téléphone à le journaliste, hein, avant d'être invité, j'ai expliqué pourquoi on était arrivé là. Et bon, deux ou trois jours plus tard, on me rappelle, il dit « Ok, on vous invite ». Donc, j'y vais.
Oui, c'est un témoignage très fort. Hein.
C'était un témoin gênant.
Ah oui, oui. Ouais. Et c'était votre père ou votre mère?
Le paternel.
Ouais, oui, c'était le paternel. Notre, d'accord.
Notre bourreau.
Oui, oui, oui.
Et donc, en fait, bon, et je pense que c'est leur service juridique qui a décidé de ne pas m'interviewer parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et parce que si on est arrivé là, c'est à cause des pouvoirs publics.
Oui. Bon. Donc là, je comprends un petit peu plus votre question. Voilà, la question du départ qui est qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression? Absolument.
Oui. En fait, c'est, pour moi, la France n'a jamais été un pays 100% démocratique. On va dire un pays pseudo-démocratique. Parce qu'en fait, les témoins gênants, eux, ils n'ont pas le droit à la parole.
Alors, pour répondre concrètement à la question, la libre antenne, c'est la libre antenne. Tout le monde peut appeler, tout le monde peut raconter, libérer la parole. Et en fait, le principe, vraiment, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Alors oui, ça va heurter certainement la sensibilité de certaines personnes. Ça peut déranger, ça peut au contraire captiver. Ça va faire écho, ça va résonner. Maintenant, voilà, c'est la libre antenne. Et en tout cas, vous avez la certitude que moi, je ne vous juge pas. C'est votre vie. Et voilà, c'est vous. C'est vous, Paul. Donc...
En fait, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dupes, parce qu'en fait, lorsque je dis que la liberté d'expression, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un secret de polichinelle. D'autre part, j'avais expédié mon deuxième petit livre en Belgique, à Bruxelles, à une maison, une association d'éditeurs.
Mmh.
Jamais eu de retour non plus.
Vous pensez que c'est le thème qui dérange?
Oui. C'est le bouquin que j'ai envoyé, c'est ma biographie, c'est mon autobiographie.
Est-ce que c'est le thème ou c'est la façon dont vous l'écrivez? C'était ça ma question.
Déjà, la couverture couverture est dérangeante.
Ah.
Le titre qui dérange, puis il y a un symbole qui dérange. Mais ça n'empêche. À Bruxelles, il n'y a aucun éditeur qui m'a contacté pour me dire votre histoire nous intéresse, mais on va changer la couverture.
Oui, en fait, effectivement.
Ça aurait pu se faire. Surtout que c'est un petit livre, hein, parce que c'est un petit livre qui fait 65 pages. Et encore, il y a la deuxième partie, il est en deux parties. Il y a mon histoire. Et en deuxième partie, il y a « Histoire de France ». Bah, c'est juste une synthèse de quelques pages, en fait.
Oui.
Et j'ai jamais eu de retour.
Alors, quel est, Quel est l'objet de votre appel exactement, Paul? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers ce que vous nous partagez?
Ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en France, la liberté d'expression, ce n'est pas pour tout le monde.
D'accord. OK.
Et vous savez, il y a des gens, il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins qui sont censurés.
Ah oui, certainement, bien sûr. Oui, c'est pas certainement. Oui, effectivement, vous avez raison.
Bah oui. Bon, on a ça quand même. On avance un petit peu. Disons que on évolue quand même un petit peu vers la vérité.
J'étais même en train de me dire que si vous éditez votre livre vous-même, je ne sais même pas si vous arriveriez à trouver des distributeurs, hormis sur Internet, encore une fois. Donc tout seul finalement. Hein.
Oui, ben, en fait, mes trois bouquins, je les ai fait fabriquer à compte d'auteur.
Ah oui.
Donc en très petite quantité. Mon premier, c'était 110 exemplaires.
Oui.
Le deuxième, c'était le petit dont je vous parle, c'est 140.
Mmh.
Et mon troisième, c'est simplement, il est en format A4, c'est simplement 20 exemplaires que j'ai fait.
Oui.
J'ai eu un gratuit, 21, avec des photos couleurs, photos noir et blanc, hein, pour illustrer un petit peu les... Surtout dans mon premier livre, hein, il y a des photos qui illustrent chaque chapitre.
D'accord.
Pratiquement. Et alors, justement, quand j'ai eu ce premier livre-là, j'en avais fait 30 exemplaires au départ. Et je suis allé au Salon du Livre, ça devait être en 2009. En fait, celui-là, j'ai eu les 30 premiers exemplaires le jour de l'investiture de Barack Obama. C'était en novembre 2010.
Oui, oui.
C'était une double bonne nouvelle pour moi.
Ben oui, oui. et donc au Salon du Livre.
Alors j'avais, je vous explique, j'avais fait 100 photocopies pour présenter mon bouquin.
Oui.
Donc, je les ai tous distribués, parce qu'en France, il faut savoir qu'il y a plus de 600 éditeurs, du plus petit au plus gros.
Oui.
C'est 600 éditeurs. Et j'ai aucun retour.
Après, il faut vous persévérer, Paul, hein.
Non, mais c'est bon, parce que ça fait trop longtemps maintenant.
Ah oui, bon.
Non, je vais pas insister. Et bon, par contre, mes textes, parce que j'en ai fait 80, j'en ai fait 2000, au moins 2000 photocopies là, depuis quelques années que je distribue à droite à gauche. Il n'y a personne qui me répond. Personne.
Alors,
j'ai écrit à des hauts responsables.
Oui.
Bah, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. J'ai écrit à des hauts responsables... au niveau judiciaire, au niveau gouvernement, au niveau député, enfin bon, un tas de gens, des élus et tout ça. Et en fait, ça représente des dizaines de personnes, il n'y a que deux ministres qui m'ont répondu. Là, il y a eu Michel Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre de la Justice. Et il y a eu Christian Jacob, qui à l'époque était ministre de la Fonction publique.
Alors après, est-ce que vous avez donné du sens à ce livre ? Est-ce qu'il y a un message à travers ce que vous avez vécu ?
Ah ben oui, c'est un message par rapport aux violences familiales.
Oui, et ça n'a pas fait écho manifestement. Alors, Paul, vous avez reçu un SMS qui vous est adressé. On vous pose la question, pourquoi doute-t-il de la liberté d'expression ? Il a été censuré en 2010, il y a 12 ans. Alors ça n'est pas signé, je ne sais pas de qui est-ce, mais c'était il y a 12 ans. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez retenté de mettre en avant à la fois votre parole et en même temps les livres que vous avez écrits ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça a évolué un petit peu à ce niveau-là. Mais moi, je reste persuadé, parce que je connais des cas, qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit à la parole.
Bon. Bon, en tout cas, vous l'avez eu ici avec nous.
Ouais. Et en fait, bon, parce qu'on avait parlé aussi d'un autre thème... Des thèmes, je pourrais vous en proposer 80.
Oui, j'ai entendu.
Mais parce qu'il y avait aussi, on avait parlé du deuil impossible.
C'est ça, le deuil impossible.
Éventuellement, vous savez ce que c'est que le deuil impossible, je pense. Et, on peut citer des cas très concrets, d'ailleurs, par rapport à ça. Par exemple, bon, l'affaire Jubilard, par exemple.
Oui.
L'affaire Jubilard. Bon, Madame Jubilard, je ne me rappelle plus son prénom. Qui était infirmière, hein, les mères de nos enfants, je crois.
Oui.
On n'a jamais retrouvé son corps.
Non. C'était Delphine, le prénom.
Maintenant, l'a jamais retrouvé. Donc les proches de Madame Jubilard ne pourront jamais faire le deuil, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas tourner la page tant qu'ils n'auront pas les réponses aux questions qu'ils se posent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est devenue. Ils auront tout le temps ça dans la tête et ça va les empêcher d'avancer. Ils ne pourront pas se concentrer, ils ont du mal à se concentrer. Ben, il y a un avant et un après. Hein. Voilà. Bon, par contre, maintenant, il y a des cas. Bon, c'est aussi le cas de beaucoup de gens, de personnes qui ont été assassinées, qu'on n'a jamais retrouvées. Donc, ben, les proches, ils se posent des questions éternellement et on peut pas tourner la page. Il faut obtenir les réponses. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les procès d'assises pour obtenir des réponses. Oui. Et malheureusement, ils les obtiennent pas toujours parce que l'accusé ne veut rien révéler.
Et donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut lâcher prise, se dire que bon, ben voilà, nous n'aurons jamais les réponses à ces questions. Mais au-delà de ça, vous avez raison, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas tout oublier, ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des machines. Donc, effectivement. Maintenant, après c'est, tout dépend de la douleur, Paul. Et là, on parle de la douleur. Vous savez, cette douleur que vous ressentez de temps en temps ou même souvent, elle s'atténue néanmoins avec le temps. On est d'accord ? Elle s'atténue, n'est-ce pas ?
Non, au contraire. Au contraire, parce que...
Vous avez été maltraité. Vous avez été maltraité, Paul. Est-ce que vous continuez...
Oui,
Paul, est-ce que vous continuez à être maltraité aujourd'hui ?
D'une certaine façon, oui, parce que j'en paye toujours les conséquences. Moi, j'ai pris la vraie perpétuité sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan financier. Voilà.
Et là, moi, je parle juste de votre bourreau. Juste de votre bourreau. Est-ce qu'il continue, ce bourreau, à vous persécuter et à vous maltraiter, Paul ?
Non, parce qu'il est mort hein, depuis longtemps. Il est mort en 2010.
Hein. Donc, Paul, qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est
ça
fini ?
Ça veut dire que...
Que c'est
ça
fini
veut dire, ça veut... Pour moi, ça veut dire que ça restera... On parlait des blessures. Bon, il y a des cicatrices qui restent.
Absolument.
Il y en a qui se referment, mais il y en a d'autres qui ne se referment pas. Et parce que notre paternel, il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais fait un séjour en prison ni à l'hôpital psychiatrique, contrairement à moi.
J'entends, Paul. Est-ce que vous m'avez entendu ?
Oui, oui.
Est-ce que vous avez conscience que c'est fini, Paul ?
C'est pas fini, puisque moi j'ai deux frères. Alors il y a aussi le côté familial, parce que j'ai deux frères. Il n'y a plus aucune relation entre nous depuis des années et des années.
Oui.
Donc j'en souffre de ça aussi. Notre famille a été complètement détruite, hein.
Vous nous avez expliqué, hein, ils sont partis, pour eux, pour se sauver, c'était l'expatriation pour réussir. Mais néanmoins, ils sont partis avec leurs cicatrices émotionnelles, leurs cicatrices invisibles, leurs traumatismes. Mais ce que je suis juste en train de vous dire, juste la première marche, Paul, c'est de réussir à vous dire, c'est fini depuis 2010. La personne n'est plus là. Juste ça, Paul. C'est fini.
Oui, mais j'entends bien. Vous donnez ce discours-là régulièrement, mais à d'autres personnes. Mais comment dire ? Moi, ça fait 32 ans que je vis seul. Je mange tout seul, tous les soirs. Ça fait 32 ans. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi moi, j'arrive à supporter la solitude comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de... je suis large d'esprit, un petit peu trop peut-être d'ailleurs, par rapport à certaines choses. Mais en fait, si j'arrive à supporter la solitude à ce point-là, c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai souffert énormément de la promiscuité. Alors la promiscuité, j'ai connu toutes les formes de promiscuité. Familiale, militaire, service militaire, professionnelle, carcérale. Voilà. Donc, je préfère être encore... Donc, c'est pour ça que j'arrive à supporter la solitude. Parce qu'il n'y a rien de pire que la promiscuité pendant des années, des années, des années.
Alors, Je comprends parfaitement et je suis plutôt adepte de la solitude à dire que la solitude fait du bien. L'isolement est très mauvais. Maintenant, moi j'ai une autre question à vous poser, Paul. Quel homme voulez-vous être?
Vaste sujet.
Ah ben voilà. Alors, je ne vous demande pas une réponse tout de suite. Je viens juste de semer une petite graine. On pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez. Mais vraiment.
Je n'ai jamais semé, moi.
Mais. Oh, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous verrez, ça pousse très vite parfois. Mais vraiment, Paul, quel homme voulez-vous être? Parce que vous nous dites je supporte, je subis, etc. Mais encore une fois, quel homme voulez-vous être? Donc, si vous travaillez là-dessus, ça peut peut-être vous aider un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour alléger cette souffrance, ce fait de parfois cette haine, hein, parce que moi je me souviens très bien, on en avait parlé, cette ire, cette colère que vous ressentez et qui monte comme ça, d'accord, de temps en temps, vous l'avez exprimé, je m'en souviens très bien, parce que là c'est la troisième fois que je vous ai en ligne, et merci de votre confiance, Paul. Vraiment, quel homme voulez-vous être et de quoi avez-vous besoin?
Juste pour finir, si vous permettez.
Bien sûr.
Il y a du monde derrière. Hein. Les gens vont pas être contents parce qu'ils disent oh, celui-là, il est passé plusieurs fois, puis moi, j'espère, je ne passe jamais.
C'est la libre antenne. Chacun a le droit à la parole et vous pouvez vous exprimer, mon cher Paul.
Juste pour finir, en matière de reconstruction psychique, on en a parlé, c'est le cas de Lydia Huguardo. Lydia Huguardo, c'était probablement la femme la plus torturée de France pendant 28 ans. Son beau-père lui a fait 6 enfants, donc elle a été violée des milliers de fois. Elle a subi toutes sortes de tortures. Ça s'est arrêté quand son bourreau est mort. Il a fait une crise cardiaque et c'est comme ça qu'on a découvert le poteau rose. Et elle a pu se reconstruire parce que suite à la médiatisation de son affaire, elle a rencontré plein de gens et puis elle a rencontré un type très bien. Maintenant ils sont ensemble, je sais pas s'ils sont mariés, enfin ils sont ensemble, ils ont eu 3 enfants, donc elle a 9 enfants. Donc maintenant, puis bon, elle avait 6 enfants, donc elle aimait beaucoup ses enfants. Et voilà, donc elle avait les conditions pour se reconstruire, parce qu'on peut pas se reconstruire comme ça, il y a des conditions à réunir.
Et ben voilà. C'est...
Moi j'ai aucune solution. Avant j'en avais des solutions. J'étais partie d'associations, tout ça. Bon, il y a aussi le problème de l'amnésie traumatique. Hein. Concernant mes frères,
oui, oui.
Ils sont peut-être encore dans l'amnésie traumatique. Mais je pensais qu'on aurait pu se retrouver quand le vieux est mort.
Oui.
Bon,
c'est pas le cas.
C'est rien passé.
C'est pas le cas. Mais non. Toujours est-il que, avant de nous quitter, moi je voudrais juste, Paul, je vous demande juste ça. Une feuille blanche, un stylo. Quel homme voulez-vous être? De quoi avez-vous besoin? Et quelles sont les conditions, puisque vous parliez de conditions, pour y arriver? D'accord? Et on en reparle, promis, vous me rappelez et on en reparle.
Je les connais, les conditions. Ne vous inquiétez pas.
Non, mais c'est...
Je vous écoute souvent, donc voilà.
Ouais, bon, bah tant mieux. Merci, Paul, de votre fidélité. Merci infiniment de votre confiance. Et,
en tous les cas, ça marche bien ce soir à la radio.
Hein. Ça marche bien ce soir à la radio? Oui, ça va. Ça va.
Vraiment.
Oh oui, ça va. Et puis, vous voyez, on vous a récupéré, donc ça, c'est une bonne chose.
J'ai enregistré la conversation. Alors, j'ai envoyé un de mes livres à Olivier Dacroix.
Qui revient.
Donc, éventuellement, vous pouvez le récupérer auprès de lui.
D'accord, ok. Ok, je vais regarder, promis.
Alors j'ai pas eu de retour non plus, vous voyez. Parce que j'ai demandé à ce que l'on confirme que le livre lui avait bien été remis. Et j'ai pas eu de réponse non plus.
Bon, bah je vais regarder. Je vais regarder ça, je vous promets. À
je
bientôt.
Peux pas vous dire à la radio.
Ne raccrochez pas tout de suite. Ne raccrochez pas tout de suite. Et puis
ouais,
Bastien ou Adrien me donneront le nom du livre. Hein. Paul, prenez bien soin de vous et à très bientôt.
Voilà, j'espère bien. Et puis
j'espère.
Bon courage aussi pour
Merci. Voilà. Merci infiniment, Paul. Au revoir.
C'est moi.
Au revoir. Et tout de suite, nous accueillons Caroline. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive Caroline?
Qu'est-ce qui m'arrive? En fait je suis un peu perturbée parce que là je ne sais plus par où commencer. Le but de mon appel c'était d'une part en réaction à l'intervention hier soir d'un garçon, je ne sais plus si c'était Franck ou Dominique,
Franck.
Par rapport à ses relations, ouais, qui avait une relation insatisfaisante.
Oui.
Et là, l'entretien que vous venez d'avoir me fait poser d'autres questions. Donc, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment commencer.
Ah, c'est intéressant. Mais c'est tout l'intérêt, justement, hein, voyez, de la libre antenne, c'est qu'il y a des témoignages qui font écho, ouais, qui nous perturbent. Et voilà, ça nous amène à réfléchir. Donc, quelle est l'urgence pour vous ?
L'urgence. Eh bien, ça va être plutôt de revenir sur ce que
vit Franck.
Ouais,
que l'on salue.
Ouais. Parce que je suis son pendant féminin, j'ai envie de dire, je crois. Moi, je vis l'inverse, en fait. je suis dans la même situation que lui. Mmh. Dans une relation insatisfaisante dont je n'arrive pas à m'en sortir, en fait. Je pense que ça serait un mal pour un bien. Mais je crois que je n'ai pas envie de passer par la période du mal. Et c'est ça qui m'angoisse, en fait. Et voilà. Et je sais qu'il y a certainement une issue à quitter cet homme, mais j'y arrive pas.
En fait, il y a une issue, mais on ne sait pas encore laquelle. C'est ça, hein, okay.
Bah si, je pense qu'il y a une issue, mais elle ne me plaît pas, en fait.
Parce que vous connaissez la réponse, en fait. Vous savez que...
Ouais. Enfin, je l'imagine. Après, peut-être que je peux me tromper, hein. C'est ma version, parce que c'est pareil, il y a peu de communication, je suis dans la supposition, certainement. Mais voilà, connaissant un petit peu le garçon, je pense que... En fait, ou limite, ça sera à moi de prendre la décision. En fait, j'ai l'impression qu'il attend que je prenne la décision.
Alors, Caroline, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de poser le contexte, le cadre, si vous voulez bien, si vous voulez bien, de façon à ce que je puisse... vous aider si c'est possible, ne serait-ce qu'à cheminer et peut-être vous aider à répondre à certaines interrogations que vous pourriez avoir, ou au contraire une idée bien précise, hein, peut-être qu'effectivement on va pouvoir vous aider. D'ailleurs, j'invite les auditeurs au 739-21 à venir compléter et venir m'aider également à vous donner leur avis, pourquoi pas. Je parlais de chaîne d'amitié. Donc, expliquez-nous, qu'est-ce que vous vivez, en fait, aujourd'hui ?
Alors, si on commence par le début, si on remonte dans le temps, tout d'abord, en fait, là, je suis fraîchement divorcée depuis 15 jours, mais séparée depuis 2 ans.
Oui.
Donc, déjà, gros trauma à me remettre de séparation.
Oui.
Ça, j'ai aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre. Ça, c'est un autre sujet, un autre thème à aborder.
Ouais.
Mais pas ce soir, pas forcément. Et donc, j'ai rencontré le garçon que je fréquente en ce moment, il y a maintenant un peu moins de 18 mois.
D'accord.
Donc, ça s'est fait finalement assez rapidement, enfin 6 mois après ma séparation.
Vous l'avez rencontré comment, Caroline ?
Par le biais d'une copine en commun.
D'accord.
Histoire de me changer les idées, de faire le pansement, le rebound. Et en fait, c'est pas resté le rebound, c'est resté, en fait. C'est une relation qui finalement s'est installée dans le temps. Moi, je pense que j'ai un problème de me retrouver seule, de solitude. Vous parliez de solitude aussi tout à l'heure.
Oui.
Voilà, je pense que j'ai un problème avec ça, tout comme hier, donc c'est Franck, c'est ça. Donc voilà, moi, donc après, moi, ma vie a été faite, ça y est, j'ai des enfants, j'ai pas forcément envie de me remettre avec quelqu'un, enfin, revivre une vie conjugale avec quelqu'un.
Oui.
Mais voilà, passer du bon temps, partager, enfin voilà, c'est surtout, j'aime partager des moments. Voilà, j'aime discuter, échanger, et je pense que voilà, j'avais besoin de rencontrer quelqu'un pour traverser cette période.
Mmh.
Et alors que je me retrouve face à quelqu'un qui est célibataire, je suis en limite un vieux garçon, sans enfant, qui en veut. Donc évidemment, moi, j'en veux plus.
Oui.
Donc voilà, déjà, c'est-à-dire que dès le début, cette relation est limite vouée à l'échec, puisqu'on n'a pas les mêmes attentes, ni les mêmes besoins. Et pour autant, lui, j'ai l'impression qu'il s'accroche. Après, j'ai l'impression que je suis aussi sa seule fenêtre vers le monde, son seul lien social vers d'autres personnes, en fait. Voilà, donc lui, voilà, il a des attentes, on n'a pas les mêmes attentes. Et donc, c'est une histoire qui mène à rien. Et pour autant, on se fréquente.
Donc, et pas les mêmes attentes, pas le même rythme.
Ouais, en plus, ouais, voilà.
Bah oui, en fait.
Il est très libre, autonome, indépendant. Moi, pas du tout.
Vous êtes quoi?
Moi, je pense que j'ai une dépendance affective. Là, je serais pareil. Non, mais pas forcément à lui, hein, du meilleur général. Hein.
D'accord.
À tout le monde, je pense.
D'où le constat de « je n'aime pas être seule » ou « je ne sais pas être seule ».
Ouais, voilà.
D'accord.
Je ne sais pas m'occuper. J'aime pas être seule, ouais. Alors, c'est bizarre. Je pense être une solitaire, pourtant.
Ouais.
Parce que je pense que je suis une sauvage. J'aime pas forcément rencontrer des gens ou alors que ce soit dans un petit cadre. Voilà. Mais la solitude, j'aime pas.
Ah, bizarre, non, il y a toujours des explications. Mais alors, moi, ce qui me vient en tête comme ça, c'est clairement, si vous êtes honnête avec vous-même, je dis bien honnête avec vous-même, ce qui n'est pas forcément facile, hein. Qu'est-ce que vous voulez?
Je ne sais pas, justement. Je sais pas parce que je sais que ça. Je dis pas que la relation est toxique, hein, pas du tout.
Non, c'est. Alors, je confirme. Vous avez juste dit que c'est une relation insatisfaisante. Voilà le terme que vous avez employé. Vous n'avez pas dit qu'elle était toxique. Vous avez dit elle est insatisfaisante. C'est ce que j'ai noté.
Ouais, exact.
Donc. Qu'est-ce que
non,
vous
après,
voulez
l'autre souci. Bah, oui. Non, mais l'autre souci que j'ai, je pense que j'ai analysé ça aussi, j'ai l'impression que j'ai aussi peut-être ce péché d'orgueil d'être celle avec qui ce jeune homme finira peut-être sa vie.
Caroline,
alors, j'aurais pas les enfants.
Caroline,
mais,
je vais vous laisser avec cette question parce que là, il y a les informations et okay. on se retrouve juste après. Ça vous va?
Ouais.
Allez, à tout de suite. Voilà, et nous retrouvons tout de suite Caroline. Caroline, juste avant le flash info de Wilfried de Villers, vous nous avez expliqué votre situation amoureuse, à savoir que depuis 18 mois, vous fréquentez une personne qui, en fait, à la base, vous n'espériez rien. Je dirais même que c'était parti pour être une relation, alors vous avez dit pansement quand même, hein. Vous avez plus parlé de besoin que d'envie, et puis finalement, la relation s'est installée avec le temps, mais elle ne vous apporte pas de satisfaction, puisque vous avez donné et qualifié la relation comme étant insatisfaisante. Voilà les mots que vous avez, le mot que vous avez employé concernant cette relation. Vous nous appelez pour avoir un petit peu plus d'explications, de compréhension sur ce qui vous arrive. Et juste avant donc le flash info, je vous posais la question de savoir si vous êtes honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez de cette relation?
Mais je ne sais pas, justement.
Voilà. Alors,
c'est bien ça le problème.
Moi, j'ai reçu un SMS pour vous, que je vais vous lire. Ce SMS vient de Max. Max vous dit, vous n'aimez pas la solitude? Demain, 9h, mairie, je vous épouse. On divorce fin août pour passer l'hiver tranquille. Ok, Max.
Non.
C'est mignon. Oui. Merci Max, merci infiniment.
Merci.
Bon.
Non, mais en fait, voilà, moi, c'est comment j'arrive pas à comprendre comment fonctionne mon cerveau, comment on en arrive là à être lucide sur quelque chose et de pas arriver à prendre la décision.
Ah oui.
Où je vous dis je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai pas envie de repasser par ce mal-là. Après, voilà, est-ce que aussi.
Alors, vous savez comment ça s'appelle, ça?
Non.
Ça s'appelle de l'auto-sabotage.
Ouais, alors ok. Alors, ça, je sais. Voilà. C'est un peu l'histoire de ma vie.
Donc, c'est de la psychologie comportementale, l'auto-sabotage et le fait tout simplement que. On voit bien que soit la situation se dégrade, soit qu'elle ne nous convient pas, mais on en a conscience, hein, mais on ne fait rien.
Ouais.
On ne fait rien. Et on laisse comme ça les choses se dégrader toutes seules. Ça s'appelle de l'auto-sabotage.
Ok.
Donc, pour quelle raison est-ce que vous faites ça ? Est-ce que c'est par évitement ? Puisque là aussi, vous nous avez dit que vous n'alliez pas, hein, vous ne creusez pas, puisque c'est ce qui a fait écho hier lorsque j'en ai parlé avec Franck. Bah, vous commencez déjà à avoir des éléments de réponse, hein, il me semble.
Ouais.
Vous attendez peut-être que ce soit lui qui vous quitte ? Peut-être ?
Ouais, je pense. Ouais, oui et non, en fait. Parce que, après, je pense que j'ai encore cette sensibilité face à mon divorce ou de revivre encore une séparation, en fait.
Un échec.
J'ai pas envie de revivre ça. Voilà,
vécu comme un échec, puisque vous parliez d'orgueil et de fierté. Vécu comme un échec. Et peut-être que ça, vous n'aimez pas non plus, Caroline.
Ah non, effectivement. Ouais. Mais bon, qui aime les échecs ? Même si je sais qu'on en sort grandi ou je ne sais quoi, mais...
Oui, absolument.
Bah, non, mais pas moi. Oui, mais non, mais justement, j'arrive pas à grandir. Ouais, ouais, voilà. Non, mais j'arrive pas à grandir, j'arrive pas à... Ça me fait m'enfoncer encore plus, en fait. Et me dévaloriser encore plus.
Est-ce que vous avez confiance en vous ?
Pas du tout.
Bon, alors Caroline, là, clairement... Non, mais je vous en prie, mais on est là pour échanger. Hein. Alors, si vous n'avez...
Non, mais je m'intéresse le tableau, quoi.
si vous n'avez pas confiance en vous et que vous restez dans votre zone de confort, ça peut être très compliqué. Est-ce que vous connaissez l'intérêt de sortir de sa zone de confort ?
Ben, non.
Bah,
je cherche pas trop, justement. Bah non, moi, tout me fait peur, en fait, hein, justement, les échecs, les prises de risques.
Eh bien, ça agrandit sa confiance en soi.
Mm.
Voilà, tout simplement. Sortir de sa zone de confort agrandit sa confiance en soi. Donc, allez-y. Reprenez la main. Il vaut mieux être acteur que spectateur de sa vie, quand
ouais,
même.
Ouais, mais c'est ça. Mais ouais. Mais oui, là, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, je regarde tout ce qui se passe, en fait. J'attends.
Oui, mais après, encore une fois, Caroline, hein, c'est chacun son rythme, chacun son chemin, chacun son destin. Là, c'est une chanson qui me revient en tête. mais ce qui est vraiment très important, c'est... On ne se met pas de pression, ça ne sert strictement à rien, hormis se braquer encore plus, ruminer, d'accord ? Voilà. Et puis finalement, être dans l'auto-sabotage, la perte de confiance en soi, se dévaloriser, enfin vraiment c'est une spirale infernale. Donc c'est de se dire, pour le moment, j'attends, vous pouvez, hein, j'attends, et puis arrivera le moment où je reprendrai la main. Ce sera beaucoup plus clair pour moi. Je serai également en capacité de pouvoir assumer tout ce qui va se passer après. Et ce sera le bon moment. Ce sera votre moment à vous. Maintenant, par rapport aux insatisfactions, il faut peut-être aller justement recréer des choses, vous partager peut-être plus de moments qui vous plaisent. Vous voyez ? Encore une fois, je parlais de communication assertive hier, hein, l'assertivité qui est le gagnant-gagnant. Donc, si ça se passe plutôt quand même bien avec cette personne, on n'est pas obligé d'aller vers la rupture totale, je dirais les conflits. Hein, mais voilà, on partage de bons moments. Donc,
ouais, mais en fait, j'arrive pas à nuancer, moi. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, en fait. C'est ça le truc que j'ai aussi. J'arrive pas à prendre la relation à la légère, en fait, et me dire, voilà, effectivement, quand on est ensemble, c'est cool, mais et vivre ma vie quand on n'est pas ensemble, j'y arrive pas, en fait. Voilà, je vous dis, je suis dans l'attente, je suis dans la frustration, dans la colère, dans la compréhension, en fait, de savoir ce qu'on fait ensemble, en fait.
Ah bah alors je vous confirme, hein, le couple c'est vraiment l'espace d'évolution, chacun est censé pouvoir donner et avoir soit donner le meilleur de soi-même, soit avoir l'image, hein, d'accord, une bonne image de soi à partager. Donc là manifestement c'est pas le cas, donc vous savez que cette personne n'est pas pour vous, vous le savez. Vous n'arrivez pas à mettre en action, mais action quoi ? De le quitter ? Caroline, est-ce que vous êtes là ? Ah, il semblerait qu'on ait... Nous n'avons pas perdu Caroline, donc je vous propose une petite chanson, une musique, et puis on retrouve Caroline juste après.
Allô ?
Ah, vous êtes là,
oui. Caroline ? Oui, je suis là.
Ah, j'avais lancé une chanson, mais qui ne... Finalement, c'est vous. Alors...
Je peux chanter.
Alors justement, j'avais Tonton David, vous l'aviez reconnu, j'avais Tonton David en tête.
Ouais,
chacun
ouais.
sa route, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son destin. Donc, est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit, juste avant que ça ne coupe ?
Oui, enfin, non, je veux bien que vous preniez, s'il vous plaît.
Je ne m'en souviens plus, c'était tellement spontané. Vous savez quoi ?
J'étais dans l'incompréhension, donc de la.
Ouais, mais que ça ne bouge pas. Faudra réécouter notre échange en podcast demain, d'accord ? Et d'ailleurs, chers auditeurs, venez réagissez au 739-21. Dites-nous ce que vous en pensez, soit par SMS au 739-21, ou alors même en direct au 39-21 pour aider Caroline si vous le souhaitez. Donc j'étais effectivement en train de vous dire que manifestement tout est clair pour vous, la situation est très, vous êtes lucide sur ce qui se passe. C'est une personne qui n'est pas faite pour vous. Maintenant, c'est une question de rythme. Manifestement, vous préférez vous mettre en colère, vous préférez vivre de la frustration que d'aller vers quelque chose de plus positif. Ah. Après, pour quelles raisons ?
Ben ouais, c'est ça que je comprends pas en fait.
Alors, vous savez, une thérapie cognitive, comportementale et cognitive.
Alors, justement, j'en fais une. J'en fais une. Alors après, je sais pas si c'est la bonne.
C'est la bonne.
Mais après, c'est moi aussi. J'ai l'impression que je suis peut-être pas réceptive à ça. J'ai l'impression que ça marche pas quoi.
Alors, changez. Changer de thérapeute.
En revanche, elle m'a aussi conseillé, mais alors peut-être que ça c'est plutôt en rapport avec mon trauma du divorce, elle m'a conseillé l'EMDR, puisque après il y a eu quelqu'un d'autre qui m'a parlé aussi de ça.
Oui, oui.
Et ça justement, il faut que je sais que je vais me renseigner sur ça. Après voilà, pareil, comment trouver le bon feeling, le bon thérapeute, pour que ça marche et tout. Mais je suis déjà sous thérapie. J'ai un thérapeute historique depuis 2 ans, puisque j'ai fait une dépression, tout ça. J'ai même pris aussi, je suis en suivi en TCC. J'ai aussi un autre psy pour la relation avec mes enfants, parce que c'est compliqué.
Ouais.
Enfin, je vois 3 personnes en même temps, et malgré ça, je n'arrive pas à bouger mes fesses et à me reconstruire et à prendre ma vie en main, en fait, à redonner un sens à ma vie. Et ça me rend dingue, quoi, d'être lucide et de rien faire, de pas bouger, d'attendre et de me complaindre dans ça, enfin d'être triste en permanence, ça me saoule en fait. Ou là, même chose, enfin peut-être que je change de sujet, mais pareil, là, vous parliez encore tout à l'heure du lâcher prise, tout le monde m'en parle, le lâcher prise. Mais c'est quoi exactement cette signification du lâcher prise ? Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même lâché prise sur certains trucs où j'ai pas eu le choix. Et pour autant, je suis pas heureuse, quoi.
Vous avez besoin de quoi pour être heureuse, Caroline ?
J'en sais rien. Mais justement, voilà, j'en sais rien.
C'est
des questions auxquelles j'ai pas les réponses, quoi.
Non, mais est-ce que vous les cherchez d'abord ? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que vous cherchiez, vous cherchez véritablement les réponses. Vous savez, j'ai le sentiment vraiment, et là je rejoins Bastien, qui me dit, mais elle serait pas HPE par hasard ?
HPE, ça veut dire quoi ?
Ouais, haut potentiel émotionnel.
Ah ouais, alors ça peut-être, oui, tout le monde me dit que je suis hypersensible, j'en sais rien, oui, peut-être, je sais pas, ça veut dire quoi, ça se manifeste comment ?
Eh ben, par tout ce que vous êtes en train de nous décrire.
Ah.
Voilà. Tout simplement.
Et ça se soigne ? Pourquoi ?
Alors, j'ai pas une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Non. Non,
bon,
non. Ça ne se soigne pas. On fait avec. On fait avec, en fait, tout simplement. L'hypersensibilité, elle est là, et puis il faut la gérer. Mais avant tout, il faut l'identifier. Et il faut l'accepter. Et ça, c'est déjà la grande, 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 je veux pas des guérisons, mais en tout cas, cette rémission de pouvoir se dire, ok, donc je suis comme ça, et puis je vais faire avec. Donc d'identifier vos défauts, vos axes d'amélioration, vos qualités. Et c'est marrant, mais je reviens sur cette phrase importante qui est la notion et le concept de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Donc là, vraiment, Caroline, posez-vous, P-O-S-E-Z, posez-vous et faites une pause, P-A-U-S-E. Peut-être qu'il y en a trop là, il y a trop d'informations. Le psy, le thérapeute,
oui,
la TCC.
Mais c'est sûr.
Vous voyez,
mais c'est ça.
Il y en a peut-être trop pour vous là. Là c'est ouf. Donc, vous parlez d'orgueil, vous parlez... Donc, je me dis, ok, là, j'ai une Caroline qui est une battante, elle n'aime pas l'échec. C'est quelqu'un qui, néanmoins, bah, quand il y a quelque chose, hein, vous foncez. Normalement, vous êtes ambitieuse, hein, donc vous allez jusqu'au bout. Et là, c'est probablement ce qui vous énerve. C'est parce que vous n'allez pas au bout de ce que vous avez entamé.
Ouais. Oui.
Donc, parfois, faut le lâcher prise, c'est ça. C'est je fais une pause. Ouh, je souffle. La priorité, c'est peut-être vos enfants, et vous avez raison. Mais vous, là, peut-être, prenez plus de temps à vous reconnecter avec vous-même, avec vos appétences, avec du plaisir. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. C'est hyper important. Je n'entends pas. J'ai pas entendu une Caroline nous dire... voilà, je sors, je me fais du bien, j'entends rien
de
tout ça.
Je sais pas faire, en fait, mais parce que je sais pas faire. Je sais pas m'occuper de moi. Moi, en fait, justement, j'aime m'occuper des autres, en fait. Et c'est pour ça que quand voilà, mon ex-mari m'a annoncé qu'il voulait se séparer, bah, tout s'est écroulé, en fait, parce que j'avais...
Vous avez bâti tout autour de...
De ça,
de
ouais.
De ça, ouais.
Et que je me retrouvais avec plus rien, en fait.
Ok, Caroline.
Tout a volé en éclats. Et alors oui, certes, il me reste mes enfants maintenant, mais c'est des enfants que je garde donc en alternance. Mais moi, je suis pas une maman une semaine sur deux. J'ai pas voulu ça. C'est pareil, ça fait beaucoup trop d'un coup du condensé pendant une semaine d'enfants, de logistique et je ne sais quoi. Et après, il se passe plus rien. Je subis en fait. Je subis tout.
Caroline, vous trouverez vraiment de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie à partir du moment où vous apprendrez à être heureuse seule. Et c'est probablement une des clés pour vous. C'est d'abord d'identifier ce qui vous rend heureuse, vous, Caroline. Par des endroits qui vous ressourcent, par... des solutions psychocorporelles, pardon, comme le yoga, comme la méditation, comme le simple fait même d'aller sortir et de se balader. Alors, peut-être pas sous les chaleurs d'aujourd'hui, mais d'accord.
Ouais, mais j'aime pas, je m'ennuie, ça m'ennuie en fait. Moi, j'aime pas faire des trucs seuls, j'ai envie de partager, d'échanger, je vous dis quoi. Ça m'intéresse pas à me balader seule en fait, je m'ennuie. Je m'ennuie avec moi en fait.
L'ennui, vous savez, l'ennui, ça développe la créativité. Hein. Donc,
oui, bah non, ça marche pas. Hein.
Oui.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Bon, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, vous n'en avez pas envie parce que j'entends beaucoup de prétextes. Et quand on présente beaucoup de prétextes, c'est qu'on n'a pas envie. Donc, pour le moment, faites une pause, vraiment. Et comme je vous disais... dans le quotidien, trouvez des sources vraiment qui vous apportent du plaisir. Reconnectez-vous à cette sensation de plaisir, s'il vous plaît. Un plat que vous aimez, ou que vous aimez cuisiner, ou avec vos enfants. Vraiment, juste ça. Faites une pause.
Ok.
La suite vous appartient de toute façon, Caroline.
Ben oui, je sais.
En tout cas,
je suis responsable de moi-même et voilà.
Ouais.
C'est compliqué aussi.
Bon, on peut vous mettre en relation avec Franck, hein, si vous voulez.
Non, je vais me poser d'abord, alors.
Très bien, super. Bon, eh bien, Caroline, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà.
Merci beaucoup. Ouais. Merci.
Bonne soirée.
À vous aussi.
Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons tout de suite Marie. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive, chère Marie?
Écoutez, je suis déjà super contente d'avoir de la chance. C'est la première fois que je vous appelle et je passe à l'antenne.
Ah.
Absolument dingue, parce que d'habitude, je suis dans l'échec total.
Eh bien voilà.
C'est un signe.
Eh bien, merci de m'avoir fait confiance, parce qu'effectivement, j'ai bien dit, si vous souhaitez passer, c'était une bonne nouvelle. Et là encore, hein, si vous souhaitez passer en direct, il vous suffit de composer le 3921. Eh bien Marie, je suis ravie. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment puis-je vous aider?
Ah, vous m'entendez?
Oui.
Oui. Ben écoutez, je vous appelais déjà. Bon, je ne suis pas une auditrice très ancienne, je suis plutôt une auditrice récente.
Mm-hmm.
Parce que figurez-vous qu'en fait, je suis une vieille prof. Hein.
Oui.
Donc les vieux profs, ben, d'habitude, ils écoutent plutôt une radio, on va dire, qui commence par FII, hein, voilà, France Inter, pour ne pas la citer.
Oui.
Et comme je suis assez fan de l'émission de Mathieu Noël et de Stéphane Bern, j'ai écouté les podcasts historiquement vôtres.
Ouais.
Et puis, en regardant le site d'Europe 1, je suis tombée par hasard, début juin, sur votre émission.
D'accord.
Et j'ai trouvé ça super.
Ouais,
franchement, j'ai trouvé ça vraiment très, très émouvant.
Ouais.
Après, ça avait un côté un petit peu malsain, pour tout vous avouer. C'est que je me disais, en vous écoutant, il y a des gens qui ont plus mal que moi.
Ah ben oui.
Oui, donc ça c'était un petit peu gênant au départ.
Alors Marie, vraiment, c'est vraiment merci infiniment de votre... Ah, ça a coupé, mince. Eh bien accueillons tout de suite notre prochaine auditrice et c'est Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci, mais nous on se connaît.
Ah Brigitte.
Oui, avec Zoé.
Bien sûr.
Merci Zoé.
Comment ça va, Brigitte?
Oh ben, moi, ça va. Ma fille Elisabeth, donc, qui avait été amputée.
Oui.
Bon, il y a peut-être des auditeurs qui m'ont entendu avec Sabine. Elle a réussi du premier coup ses examens et elle est kiné.
Ah oui, bravo.
Donc, je rappelle en deux mots. Il y a 9 ans, elle a été amputée de plusieurs doigts en accident de travail.
Absolument.
Elle avait plus de pouce, plus d'index. Il restait une phalange au majeur, une et demie à l'annulaire, manquait l'ongle de l'auriculaire.
Oui.
Et puis, quelques mois après, on a fait le transfert de la phalange qui restait pour faire un micro-pouce. Elle a eu plusieurs opérations. Là, au mois, début juillet, elle a été opérée. On lui a rallongé de 14 mm son pouce.
Ah, très bien.
Et donc, elle a eu ça, quand même son diplôme, en contrecoupé de le Covid, les examens tout seul, c'était pas évident, puisqu'elle vivait toute seule. Quand les professeurs qui disaient de s'exercer sur quelqu'un,
ouais.
Et avec ton chien, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est ce que je dis, elle a fait abstraction pendant 4 ans de toute sa vie sociale. Plus de sorties, plus de natation, alors qu'elle était championne en e-sport de natation.
Oui.
Elle a mis sa vie entre parenthèses pour bosser. Et en plus, elle a eu 15,16 sur 20 avec distinction.
Wow.
Et
bravo.
Sur tout le groupe, il n'y en a eu que 9 qui ont eu la distinction.
Ouais,
et rares pour les personnes qui ont fait toutes les études en 4 ans. Donc on peut dire qu'elle a bossé. Et je vais dire que moi, pendant 9 ans, c'était constamment là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Une angoisse permanente.
Ah, oui, je comprends. Bah, oui.
Et elle dit, mais ça t'a plus touchée. Mais je dis, oui, mais toi, t'es ma fille.
C'est... Oui.
Quand on a des enfants, c'est... Bon, je dis, demande à ta sœur. Hein. Mm. Et c'est sûr que ma fille dit, c'est sûr, on ne réagit pas pareil quand on a des enfants. Ce sont ses enfants, ce sont ses neveux, nièces, ou peu importe, quoi. C'est pas la même chose. Pas la même chose.
Ouais.
Et alors, moi, j'ai passé des vacances fantastiques. Je crois que je suis la seule à avoir passé des vacances comme ça. Je suis partie avec donc ma fille et mes deux petits-enfants. Et j'ai été en Dordogne et j'ai visité le mobilhome.
Ah, d'accord.
Il faisait tellement chaud que je suis restée dans le mobilhome avec la clim.
Ah, il y avait la clim. Ah, bah très bien.
Ah ben, j'avais dit à ma fille, écoute, on prend la clim, heureusement, il y avait de quoi de faire des balaises avec le coup de chaleur. Hein.
Ah oui, oui, c'est très compliqué. Hein.
Oui,
très,
alors
très
cette fois-ci, donc, c'est formidable. J'ai été avec ma fille, que je vois un peu plus régulièrement. Mon fils, avec qui je n'avais pas vu depuis très longtemps ensemble, on a quelques jours, oui. Mais bon, là, on a encore passé une semaine ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je suis près de l'océan.
Absolument, du côté, enfin, en Bretagne.
Oui, en Bretagne, mmh. Voilà, du oui. côté Nantes, on va dire.
Absolument.
J'en ai une qui est à la frontière belge, l'autre qui est à une heure de Toulouse, l'autre qui est dans la région de Niort, et l'autre qui est dans le centre. Hein.
Oui.
Donc,
oui.
C'est vrai qu'on a fait au mois de mars la photo de la décennie, les quatre enfants étaient
réunis. Ah, super.
12, donc ça n'était pas arrivé.
Super. Alors, voilà. Qu'est-ce qui...
Alors, moi, j'appelle parce
ouais,
que
dites-nous, Brigitte.
J'ai une petite fille qui est adorable, mais je ne sais pas si je dois en faire du boudin, de la chair à pâté ou de la compote. Alors, voilà. Les parents,
qu'est-ce que vous savez le mieux cuisiner entre la confiture, la...
le boudin, non, j'achète quand même tout fait. La pâté pour chien, ah, je suis un peu spécialiste.
Ah, bah pour Zoé serait ravie.
voilà. Hein, non, mais là, franchement, elle dépasse les bornes, on ne sait plus comment faire. Moi, j'ai toujours dit à ma fille qu'elle n'était pas assez sévère, mais bon, voilà. Donc, les parents se sont séparés quand ma petite fille avait un an et demi, donc ouais. Elle vit avec maman, ouais. Elle voit son papa régulièrement, elle va en vacances avec lui. Mm-hmm. Bon, c'est pas... Il voit, ma fille n'est jamais contre pour qu'il apprenne en semaine avec son métier. Bon, bah, voilà. Hein, mais il y a toujours des trucs, c'est de sa part, quoi. Rabaisser la maman et dire ceci, dire cela. Enfin, c'est pas top. Donc, ma petite fille a vécu avec maman. Alors, le confinement, c'était la catastrophe des catastrophes, collée à elle. Mais alors, je dis, vis un peu sans temps, mais un appartement, une chambre, un séjour, une salle de bain. Elle est dans la chambre, elle dit « Maman, t'es où ?»
Rappelez-nous notre, rappelez-nous l'âge. Elle a quel âge, votre petite fille ? Combien ?
7 ans.
7 ans, d'accord.
Elle n'est pas dans le séjour. Où est-ce qu'elle peut être ? Dans la salle de bain. Alors, pourquoi l'appelles-tu ?
Mmh.
Hein, alors, depuis tout bébé, même si on la met au lit à 8h30, à 11h du soir, elle est encore en train de barboter, de chanter, et de tout ce qu'on veut. Pas moyen qu'elle s'endorme tôt. Alors, évidemment, le matin, en plus, elle met un temps fou pour tout faire. Mais pour tout, va te laver, mets-toi en pyjama. Au bout d'une heure, elle n'est toujours pas en pyjama. Après, ce qui est surtout embêtant, c'est qu'on lui demande quelque chose. Par exemple, ce qui s'est passé à mon biloum, je lui dis, mets tes chaussures, s'il te plaît. Gentiment, poliment, 2 fois, mets tes chaussures, 3 fois, 4 fois, 8 fois, 10 fois. À un moment donné, j'explose. Et je me suis contenue, hein. Bon. Non, elle est étonnée qu'on ait... Elle dit, oui, mais vous n'êtes jamais gentil avec moi. Mais je dis, attends, je dis, on essaye d'être gentil, on te demande les choses gentiment, mais à un moment donné, et elle le fait exprès.
Ah, vous pensez ? C'est ce que vous avez identifié ? Ouais.
Non, oui, parce qu'on le voit, son air. On le voit, son air, à un moment donné, elle le fait exprès.
Mmh.
Alors, je vais dire les 2-3 fois, ça va, mais quand on est au bout de 10 fois, non, elle le fait exprès. Et c'est comme ça pour tout.
Mais qui a le plus d'autorité sur la petite quand vous êtes tous ensemble, vous ou sa mère ?
Disons que si moi je lui fais une remarque, ma fille n'intervient pas. Hein. Elle sait très bien que si je fais une remarque, c'est à bon escient. Comme moi, quand mes enfants étaient petits, mon père ou ma mère faisaient une remarque, je n'intervenais jamais.
Mmh.
Hein, de même que ma petite fille ne veut pas écouter quand je lui dis, et sa mère lui dit, mais écoute ta grand-mère quand même. Hein.
Oui.
Donc, elle dit, t'es ma fille, moi je suis la fille de la grand-mère, et tu dois obéir quand elle te demande quelque chose.
Mmh.
Voilà. Pareil pour la lecture. Elle a des difficultés en lecture. Bon, elle passe du CP en CE1. Pour moi, elle n'a pas tous les acquis, déjà.
Oui.
Au problème en lecture. Et alors, je suis assise pour lire 5 phrases. On met 1 heure. Et je chipote mes cheveux, et je chipote... Je lui dis, arrête de chipoter, lis tes mots, c'est fini après, autrement tu vas te mettre debout. À un moment donné, évidemment, je lui dis, tu te mets debout. Oui, j'ai mal aux jambes, je dis, je veux rien entendre, tu lis. Et ça dure comme ça une demi-heure, hein. Mais là, je peux vous dire que je mange mon frein, hein, je me ronge, hein. Je prends sur moi, hein, pour pas exploser, hein.
Oui, vous connaissez un petit peu maintenant Brigitte, je connais votre tempérament de feu.
Et je prends sur moi pour pas
oui, la faire. Oui, je comprends.
Et à un moment donné, je dis, elle fera péter les poings, hein, ça. Hein. Je veux dire, même mon père qui a fait une patience d'ange, alors c'est puissant, j'ai jamais vu quelqu'un aussi patient que mon père, elle l'aurait fait sortir de ses gonds.
Mais vous avez, est-ce qu'elle a du mal à terminer une tâche, par exemple, quand elle commence? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a des difficultés à se concentrer, cette petite, ou à suivre? Parce que là, vous nous dites qu'elle...
Par exemple, elle aime beaucoup dessiner, elle dessine très très bien.
Oui.
Elle colorie très bien, même toute petite, elle colorie très bien, sans dépasser, elle dessine très bien et tout ça. Mais par exemple, on lui dit, maintenant on va manger, donc tu ranges tes affaires. Et après, il faut lui dire, je ne sais pas combien de fois, on est presque à manger dans les casseroles, je vais dire, tout est prêt, elle n'a toujours pas débarrassé la table. Hein? Ou on lui demande de mettre la table, elle va la mettre à moitié. Ou trois assiettes, hein. Bon, voilà. Hein? Et c'est comme aussi ce qui m'énerve, c'est que quand elle n'a pas quelque chose, ça va...
Alors, Brigitte, est-ce que vous êtes inquiète pour votre petite fille?
Oui, parce que ça a des répercussions à l'école. En ce sens que, bon, ma fille l'avait fait tester, alors, elle n'est pas hyperactive, mais c'est pas loin. Alors, elle perturbe.
Eh bien, en fait, c'est à ça que je pensais.
Elle se lève, perturbe sa classe. Elle arrive toujours en retard, alors que ma fille est à l'heure, mais mademoiselle oublie ceci.
Ouais.
Elle oublie de prendre son cartable, elle oublie de prendre son sac de sport, elle oublie plein de trucs. Alors, elle a énormément de connaissances sur plein de choses. Elle pose des questions et ma fille lui répond. Hein? Elle a énormément de... Et j'ai l'impression que son cerveau, il est coupé en deux. Un, avec toutes ses connaissances. Et l'autre, avec tout ce qui est nécessaire, obligatoire par rapport à l'école et à la vie courante. Ça, c'est la choucroute.
D'accord. Je comprends ce que vous dites. Et en même temps, j'ai... Forcément, je réfléchis en même temps, j'analyse ce que vous êtes en train de nous dire, parce que tel qu'on le décrit, et en tout cas tel que vous décrivez votre petite fille, on pourrait penser à du TDAH, par exemple, mais en même temps, un enfant qui va dans tous les sens, il faut aussi le laisser être un enfant, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je suis d'accord.
Alors, est-ce que votre fille, par conséquent, si elle s'inquiète et qu'elle a le sentiment que sa fille a un comportement qui n'est pas, entre guillemets, dans la norme, ou qui, en tout cas, pour se rassurer, est-ce qu'elle a emmené sa fille faire des tests pour du TDAH, par exemple?
Vous savez, oui, elle avait été faire des tests. Alors, elle avait une pédopsychiatre qui maintenant est partie et qui ne s'est pas remplacée. Déjà ça. Alors, elle voit une pédopsie. Une psychologue, ma fille dit, je n'ai pas l'impression que ça avance. Je ne vois rien bouger depuis le nombre de séances qu'elle fait.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont diagnostiqué ou analysé? Tout va bien?
Disons, elle n'est pas catégorisée hyperactive, mais elle n'en est pas loin. Hein, on va dire un peu ça. Hein. Après, elle n'est jamais contente. Alors qu'elle a fait du cheval. Bah, du poney, elle a fait de la danse, elle a fait de la gymnastique. Toutes les occasions à laquelle maman peut l'inscrire, elle le fait. Ma fille va à gauche, à droite, tout ce qui est gratuit, elle le fait avec elle. Mmh. Et elle n'est jamais contente. On lui a acheté il y a 2 ans un vélo neuf, avec les petits trous, le casque et tout. Elle a dit à sa mère, j'ai pas eu grand-chose.
Est-ce qu'elle l'avait demandé?
Alors,
ce vélo?
Elle a dit, t'exagères! Parce qu'ici à la côte, si on n'a pas de vélo, c'est compliqué de se déplacer. Moi, j'ai pas de voiture, donc...
J'entends, mais est-ce qu'elle l'avait demandé, ce vélo?
C'était aussi une question de pratique.
Oui, je comprends.
Parce que l'année d'avant, comme elle n'allait pas à vélo, elle a dû rester à regarder beaucoup la TV, parce que je ne pouvais pas l'emmener avec moi. C'est pas possible. Donc le vélo, ici, en vacances, il est absolument indispensable.
Oui.
Voilà. Hein? Et puis alors, bon, elle a un petit frère, donc ma fille lui a laissé le temps. J'ai dit oui, je veux bien, mais enfin là maintenant il a 7 mois. Hein? Et alors ma petite fille me dit oui, mais mon petit frère, il pleure. Et je lui dis, ton petit frère, il parle pas, et encore, il sait bien se faire comprendre de ce qu'il veut. Hein? Bon. Et je dis, mais toi, tu as la parole pour t'exprimer, tu sais beaucoup de choses, tu sais parler. Donc je prends avec le positif et tout ça, lui dire quand même tout ce qui... Bien, pas que du négatif. Hein. Et je lui dis, mais tu sais t'exprimer, exprime-toi au lieu de faire tout ce dans... Alors, une fois, évidemment, ça verrait moi qui ai mis toutes les... Alors, elle est en colère parce qu'elle n'aime pas qu'on se fiche d'elle. Mais elle, pour se moquer des autres, hein, ou embêter son frère, elle est la première. Je dis, attends, le jour où ton frère va en avoir marre, tu vas te prendre un petit coup de poing dans la figure, là. Je lui dis, tu vas voir, il se vengera, il aura bien raison. Non, mais c'est ça, elle est tout le temps en train d'embêter les autres. À un moment donné, on lui dit, ça suffit, mais elle continue. Mais quand on l'embête, elle ne supporte pas. Et puis je dis, il y a des comportements qui, pour moi, sont pas de l'âge de 7 ans. Je dis, attends, à 7 ans, tu es dans une maison, tu peux quand même laisser maman où elle est, tu n'as pas besoin de toujours savoir où est ta mère.
Non, mais je comprends. Je comprends.
En plus, maintenant, elle a une grande chambre avec son petit frère, mais le petit frère, il est toujours en bas. Donc, elle a une grande chambre, elle a des jouets.
Ouais.
Alors, des jouets qu'elle reçoit, des jouets que maman trouve en rue, parce que ma fille, c'est la reine de la débrouille. Hein. Et puis voilà, hein, elle a des vêtements. Elle,
oui, bien sûr, tout va bien.
Tout. Ouais. Et quand ma fille a l'occasion de dire, bon, il fait bon, hop, on sort de l'école, on part à la mer. Hop, on va filer, on prend le pique-nique, on va à la mer, puis on mange à la mer, et puis on revient. Voilà. Bon,
Brigitte, moi, je pense, hein, j'ai le sentiment que ça, de toute façon, il faudra continuer à avoir un pédopsychiatre, ne serait-ce que déjà de savoir si tout va bien, et puis surtout pour vous rassurer, parce que je vous sens quand même, alors vous nous l'avez dit hein, dès le départ, que ça vous, clairement, vous cassez les pieds. Y a un peu de stress, hein, manifestement, donc ne serait-ce que pour vous sentir un petit peu mieux par rapport à votre fille, enfin votre fille déjà, hein, parce que c'est voilà, hein, c'est elle qui vit avec sa petite fille, et puis vous, forcément, en parallèle, quand vous l'avez. Donc, la solution, vous avez tout. Vous avez tout. Vraiment, vous avez tout. Donc, je pense que moi, je ne vais pas vous apporter plus d'éléments puisque vous êtes en train de tout prendre en charge. La seule chose que je peux vous dire, c'est continuez. Comme toujours, ma chère Brigitte, vous êtes au top. Alors, vous avez reçu un SMS de Philippe avant de se quitter qui est... Voilà, je retrouve l'auditeur Philippe avec son humour que j'aime beaucoup. Il vous dit, dites-moi, vous êtes bien certaine d'avoir fermé la clim de votre mobil-home. Il fait frisquer par ici.
Je suis dans ma chambre, la fenêtre grande ouverte, hein, et j'entends même les vagues.
Eh bien, profitez de ce son bien agréable qui nous permet de nous endormir. Et je vous souhaite une douce nuit, ma chère Brigitte, et au plaisir de vous avoir une prochaine fois.
Merci, au revoir.
Prenez bien soin de vous. Au revoir, Brigitte.
Oui, ça va. Ah ben, ça va, hein, mais c'est ce que je dis, ma fille Elisabeth, quand on disait pour le 8 mars, la femme que j'admirais le plus, ma fille. Hein. Voilà, c'est ça.
J'ai une bonne nouvelle. Nous avons retrouvé et récupéré Marie.
Ouais, je suis désolée. C'est l'histoire de ma vie, en fait. Je m'étais emballée en disant que j'étais très chanceuse de vous avoir. Et puis, il y a eu réseau indisponible.
Oh là là.
Ça, c'est l'histoire de ma life. Voilà, réseau indisponible.
Bon.
Ça n'arrive jamais. Hein. Voilà, c'est comme ça.
Ça m'a
moi,
permis
de vous avoir.
Eh ben, moi aussi. Puis, ça m'a permis d'avoir des nouvelles de Brigitte, cette auditrice très fidèle qui nous appelle.
Oui, j'ai entendu. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Alors, dites-nous, chère Marie, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors moi, je me permets de vous appeler parce que j'ai beaucoup de chance et beaucoup de malchance.
C'est-à-dire ?
Donc, la première chose, c'est que j'ai des super enfants. J'ai rencontré quelqu'un il y a 6 ans qui est quelqu'un de super génial, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais finalement, la différence d'âge ne joue pas trop. Mais alors, au niveau professionnel, je suis dans une galère qui n'en finit pas.
Ah.
C'est une espèce de... d'impasse délirante.
D'accord. D'accord. Si je peux vous aider.
Enfin, je ne veux même pas vous dire combien de candidatures j'ai envoyées ces 7 dernières années.
Sept dernières années.
Donc, en fait, voilà, j'étais prof pendant 20 ans.
Ah oui, c'est ce que vous nous disiez.
J'ai eu une maladie allergique. Donc, j'étais prof d'art plastique.
D'accord.
J'ai eu une maladie allergique qui m'a... plus donner la possibilité d'enseigner auprès des élèves, ce qui était vraiment un crève-cœur pour moi. Donc, j'ai été dans un poste d'adaptation, rectorat, qui s'est super bien passé. J'avais un super poste, c'était très intéressant. Et puis, en fait, les postes d'adaptation, ça ne dure qu'un temps.
Mmh.
Et puis, à un moment, on essaye de vous remettre dans des cases et ce n'est pas forcément les bonnes. Donc, moi, de prof d'art plastique, je suis passée à gestionnaire. Qui ne m'intéressait pas du tout.
Oui.
Et au final, j'avais monté un projet et j'ai décidé de quitter l'éducation nationale pour monter un projet. D'accord. Le projet a capoté.
C'était quoi comme projet, Marie ?
Alors, c'était un projet de fonderie, puisque j'avais fait une formation de fonderie d'art. Ouais.
Ah oui, tiens. Okay.
Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai eu que des catastrophes. Mais alors, des catastrophes, je ne peux pas vous les raconter toutes parce que vous ne me croiriez pas. Tellement c'était délirant.
Ah si, si, avec l'échantillon qu'on vient d'avoir, la coupure, je vous crois, je vous crois, chère Marie.
Je vous assure, mais même, pour vous dire, hein, mes amis proches en sont au stade à me dire, va voir un marabout, parce que ça soit tes dossiers administratifs, tout ce que je mets en œuvre, capote, depuis plusieurs années.
D'accord.
Et c'est systématique, et alors, ça n'est pas au niveau personnel, c'est au niveau professionnel.
Oui, 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 vous avez bien cloisonné.
Voilà.
Hein. Ouais, d'accord.
Voilà. Donc, suite à ce fiasco d'auto-entrepreneur qui a capoté pour des raisons qui, honnêtement, n'étaient pas de mon fait. C'était vraiment des problèmes extérieurs, des murs qui s'écroulent dans un atelier. Enfin bon, je vous la fais courte. J'ai trouvé un boulot alimentaire grâce à une amie et donc je suis devenue vendeuse en boulangerie, ce qui a été une super expérience, qui au départ devait durer très peu de temps et ça a duré 6 ans.
Ah oui,
parce
d'accord.
Que, évidemment, pendant ce temps où j'avais ce boulot alimentaire, je tentais de trouver autre chose. Mmh. Donc dans le domaine culturel, donc je vis à Marseille et en réalité, complètement fou. Jamais, jamais, je n'ai eu ma chance. C'est-à-dire que les gens autour de moi me disent mais ouais, que c'était Vecta, laisse tomber, tu vas trouver un boulot hyper vite, il n'y a pas de souci, tu as fait de la radio, tu as été journaliste, tu as été assistante dans une ambassade, tu as été agrégée d'art plastique, prof, machin, gna. C'est vrai que j'ai un très très chouette CV. Enfin, je le dis sans prétention. Hein.
Ah non, mais c'est très bien.
Un très chouette CV.
C'est vraiment très
mais
bien
alors,
de dire qu'on a un chouette CV.
C'est une espèce de. Je ne sais pas comment vous dire. De schkoumoun. De schkoumoun. Voilà. C'est-à-dire que sur 276 candidatures,
276.
J'ai été retenue 16 fois.
Oui.
16 fois quand même, c'est pas mal. Et à chaque fois, il y avait un truc, c'est-à-dire que on prenait une plus jeune, ce qui est normal, hein, puisque j'ai maintenant 52 ans, ou on prenait quelqu'un qui était au RSA, ou on prenait, parce que souvent dans le domaine culturel, vous vous adressez à des associations ou à des structures qui sont un peu limitées au niveau budgétaire, donc c'est vrai qu'on ne demande pas des salaires délirants.
Oui.
Et c'est un truc de dingue. À chaque fois, la chance ne me sourit pas. Et pourtant, honnêtement, j'ai eu des avis de la part de personnel en interne dans des structures culturelles de la ville qui me disaient « Oh là là, ton CV, il est en premier sur la liste, laisse tomber, tu vas être choisi, ça va être super et tout. » Et à chaque fois, c'est un truc. Alors, j'allais même pas jusqu'aux entretiens, pour vous dire. C'est-à-dire que j'étais retenue, on m'envoyait des avis comme quoi ma candidature avait intéressé, en effet, et puis, ça
plus
tombait
rien.
Comme un flanc.
Voilà.
Et dernièrement, j'ai postulé pour une asso très sympa à Aubagne, c'était tout un projet à remonter, vraiment très très chouette. Et bon, l'entretien était un peu compliqué parce que j'étais la première à passer, donc je posais beaucoup de questions parce que j'avais pas beaucoup de données sur leur projet. Et en fait, j'ai su qu'ils avaient pris quelqu'un qui était au RSA parce qu'ils n'avaient pas de budget.
D'accord.
Et là, ça m'a flingué. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, merde, même une asso qui n'a pas beaucoup de moyens ne me donne pas ma chance. Et pourtant, ils m'ont dit, vous avez un CV du tonnerre.
Est-ce qu'ils vous ont...
Ça m'a Honnêtement, depuis, en fait, c'est arrivé donc il y a très peu de temps, hein, il y a un mois et demi, ça m'a déclenché des crises d'angoisse, chose que je n'avais jamais eue de ma vie. Même des manifestations cutanées. Enfin, je suis à un stade où
oui, vous avez somatisé.
Là, ça devient pathologique, quoi. C'est-à-dire que je développe une agoraphobie, c'est-à-dire que je reste chez moi là depuis 3 semaines, un peu enfermée. Je fais mes petites courses. J'ai plus envie de voir personne. Alors mes amis s'inquiètent, m'appellent, et moi je leur dis oui, oui. Et après, c'est une question d'ego aussi, c'est-à-dire que j'ai envie de revenir un peu en en beauté, quoi. J'ai envie de dire à mes amis, bah voilà, je trouve un super job. Mais c'est tellement lent, tellement dur,
je comprends.
Et tellement compliqué que
alors,
je ne sais plus quoi faire.
Vous nous avez dit en début d'appel que vous étiez une nouvelle auditrice. La Libre Antenne se termine malheureusement à minuit. Voilà.
Ouais.
Et je peux pas faire autrement, donc quand ça coupe, ça coupe. Hier vraiment, j'étais frustrée avec une auditrice qui nous parlait d'harcèlement pas sexuel mais scolaire. C'était vraiment mais extrêmement frustrant. Alors, chère Marie, là nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc je vous donne rendez-vous demain soir à 22h. Donc on démarrera avec vous. Et on va échanger sur à la fois ce sentiment de ne pas avoir de chance, sur qui peut vous aider aujourd'hui et vous encadrer et surtout vous redonner confiance dans ce que vous faites. Au niveau de votre CV, vous m'avez dit qu'il était béton, donc si vous partez en plus avec cet état d'esprit-là, donc c'est une excellente chose que d'avoir le sentiment d'avoir un très bon, très 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 bon CV. Maintenant, il y a plein de choses que l'on peut voir toutes les deux ensemble. Et d'ailleurs, il y a Blandine, pouf, ça tombe à l'instant. Je découvre le SMS en même temps que vous, donc je lis. Bonsoir Senna, Marie pourrait-elle faire un bilan de compétences avec une psy?
Alors,
j'en ai déjà fait deux,
c'est ça qui est terrible. Et c'est assez délirant parce que les bilans de compétences, le premier que j'ai fait me disait, mais il faut être plongeuse sous-marine. Mais j'avais déjà mon diplôme de plongeuse sous-marine, donc j'ai dit à la personne, bah oui, mais en fait, j'ai déjà fait ça dans ma jeunesse. Donc après, certes, il y a des choses à retenir dans les bilans de compétences. Je ne pense pas que ça soit des usines à gaz.
Oui, on en parlera. On en parlera demain.
Franchement,
et puis elle vous dit.
Je suis un peu dans un rouage infernal.
Oui, on en parlera. Merci Blandine, puisqu'elle vous propose, elle vous demande si vous avez aussi ouvert un compte personnel de formation. Marie, promis, on en parle demain, 22h. Ça peut également intéresser d'autres auditeurs qui sont dans la même situation que vous. Merci à vous. Donc un grand, grand merci à Paul, à Caroline, à Brigitte et à Marie. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 22h pour de nouvelles confidences et je vous souhaite une douce nuit.